la grande table reste ouverte tout l'été aux artistes et aux penseurs. À 13h50, François Sureau s'arrêtera devant l'abbaye de Port-Royal pour une leçon de théologie. Mais avant cela, nous allons parler des espions à l'affiche d'une exposition de la Cité des Sciences en partenariat avec le Bureau des Légendes diffusé sur Canal+. La figure de l'espion, réelle et au cinéma, s'y trouve démythifiée, le héros bling-bling délaissé pour dresser le portrait d'une organisation éminemment complexe. Immergé au cœur de problématiques géopolitiques actuelles, le visiteur se trouve investi d'une mission visant à espionner la République occidentale, soupçonnée de pratiquer des essais nucléaires. S'ensuit une exploration des méthodes de recrutement et de clandestinité. Nous évoquerons également les espionnes de la guerre froide auxquelles s'est intéressée Chloé Hébérard dans l'ouvrage Les espionnes racontent, devenue série sur Arte. Elle sera avec nous en duplex de Toulouse, ici en studio. Nous accueillons la commissaire de l'exposition, Laurence Conesil, et l'historien Bruno Fellini, auteur du Bureau des légendes décryptées.
La grande table d'été, Maëlys Besry.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors on va commencer par parler de cette exposition. L'idée c'était, si je ne m'abuse, Laurence Conesil, de casser ce mythe un peu machiste, cinématographique, du héros d'espionnage du James Bond.
Exactement, tout à fait. Notre objectif était de révéler la mécanique des services de renseignement français, mais justement de bien s'éloigner de tous ces poncifs qui sont véhiculés en particulier par James Bond, pour montrer que des métiers scientifiques, techniques, se cachent dans leur pratique. Donc nous avons décidé de créer et concevoir cette exposition avec les scénaristes et les décorateurs du Bureau des légendes, mais surtout avec les 6 services de renseignement français qui ont accepté pour la première fois de collaborer à une exposition scientifique et technique.
Alors d'ailleurs, ce sont des décors qui ont été reproduits après des visites au sein de la DGSE, et paraît-il tellement des décors tellement incroyables qu'on vous soupçonnait d'avoir pris des photos pendant les visites.
Alors effectivement, ça c'est
les décorateurs en tout cas.
Tout à fait, voilà, le décorateur Patrick Durand qui travaille pour le Bureau des légendes, mais qui a aussi travaillé et participé à l'exposition, a une mémoire photographique. Donc il a visité les locaux, enfin certains locaux, ce qu'on lui a bien permis de visiter à la DGSE, et il a ensuite reproduit pour la série mais également pour l'exposition, on va dire, des pièces à l'identique.
Bruno Fellini, ce que l'on découvre dans cette exposition, en tout cas pour les visiteurs lambda, c'est que effectivement, ce n'est plus une focalisation sur des espions stars, mais une institution dans laquelle les espions sont plutôt des pions en réalité, en tout cas des pièces au milieu d'un jeu. C'est l'institution qui est maîtresse de l'ensemble des mécanismes, et cette institution, elle est éminemment complexe.
Oui, parce que il faut jamais oublier qu'un service de renseignement, d'abord et avant tout, c'est un service de l'État. C'est une administration. Alors bien sûr, c'est moins glamour que James Bond. Quand on vous dit que les officiers de renseignement sont des fonctionnaires, on n'y pense pas forcément, mais oui, ce sont des fonctionnaires et donc ils sont dans des administrations qui sont d'abord hiérarchisées, comme toute administration, et qui en plus ont des règles de précaution qui font que, par exemple, elles sont cloisonnées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas censé prendre beaucoup d'initiatives, vous n'êtes vraiment pas censé jouer les aventuriers quand vous travaillez dans un service de renseignement. Le renseignement, c'est une œuvre collective. Ce qui était habile dans le personnage de James Bond, c'était de concentrer dans un personnage fictif tous les métiers, toutes les fonctions. En fait, James Bond, c'est un service à lui tout seul. Il fait tout. Il est à la fois homme d'action, analyste, saboteur, agent de tout ce qu'on veut. Bon, mais dans la réalité, ses tâches sont très délimité, parcellisé.
Et cloisonné.
Cloisonné. Et tout ça se met en route sur des instructions d'une hiérarchie qui sait ce qu'elle fait. Il y a ce qu'on appelle un cycle du renseignement. Et donc, les choses sont extrêmement organisées. Ça laisse très peu de place à l'improvisation, contrairement à la légende, finalement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la DGSE, mise en avant dans le Bureau des légendes, avec ce bureau en particulier, d'ailleurs, dont il faudrait définir la fonction exacte, ce qu'on appelle une légende, c'est en réalité une identité que prend le clandestin.
En fait, un clandestin, ce qui est vraiment l'aristocratie du renseignement, vous pouvez travailler à la DGSE sans être clandestin. Les clandestins sont très peu nombreux parce que ça correspond à un investissement énorme et à des facultés que tout le monde n'a pas. Un clandestin, bien sûr, va travailler sous une identité fictive. sous IF, comme on dit, ou travailler en Fox. Il a une identité fictive. Mais il ne suffit pas d'annoncer un faux nom pour être crédible. Si vous êtes arrêté, contrôlé, il faut non seulement que vous ayez aussi des faux papiers, évidemment correspondants, mais que vous soyez capable de raconter une existence.
Il y a toute une vie qui se cache derrière. Une vie qu'on peut retracer, d'ailleurs.
On a construite. On a un petit peu comme un romancier écrirait la vie d'un personnage. Le service a passé des mois, voire des années, à construire une existence fictive que vous, clandestins, vous devez maîtriser. C'est-à-dire que vous devez connaître dans les moindres détails l'endroit où vous êtes censé être né, où vous avez, l'école où vous êtes censé avoir appris. Voilà, vous devez mémoriser une quantité phénoménale d'informations pour, en cas d'interrogatoire hostile ou pseudo-amical, eh bien, donner l'illusion que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. C'est ça la légende, c'est cette fausse vie.
Laurence Connésil, on voit bien que dans cette exposition, c'est un aller-retour, ce sont des allers-retours sans arrêt entre la réalité et la fiction. Cette fiction-là, c'est celle du Bureau des légendes, avec cette ambiguïté de, en même temps, d'une fiction qui est au plus près, en tout cas relativement proche, de ce qui peut se passer à la DGSE.
C'est-à-dire que là, nous avons construit une fiction qui, on va dire un peu à la différence de ce qui se passe dans le Bureau des légendes, doit être toujours systématiquement plausible et réaliste. C'est-à-dire que j'imagine que les scénaristes, quand ils travaillent pour le Bureau des légendes, ils ne se réfèrent pas à chaque ligne, à l'ensemble des six services. Or, nous, c'est un travail que nous avons fait. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu des simplifications, puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir
de faire une exposition,
faire une exposition, et puis que les visiteurs s'amusent aussi. Mais nous avons eu toujours ce souci, vraiment, d'avoir des éléments très réalistes. Et c'est un détour assez intéressant. C'est-à-dire que pour approcher au plus près de la vérité des services, de la réalité de leurs pratiques, de la réalité de l'organisation de ce cycle du renseignement, nous avons dû faire ce détour par la fiction, puisque nous souhaitions faire une exposition contemporaine, donc les affaires sont encore classées, elles ne peuvent pas être dévoilées. Donc les pratiques nous ont été dévoilées, mais de façon parcellaire. Mais pour qu'on puisse avoir une vision d'ensemble de ce cycle du renseignement, nous avons construit une fiction totalement réaliste, qui permet ainsi de toucher du doigt la réalité, tout en s'extrayant de la protection du secret.
Alors justement, on va rentrer dans cette exposition et on va entendre cette mission qui est donnée aux visiteurs.
Je vous demande de rencontrer vos collègues ici présents, de collecter, de synthétiser et d'analyser tout ce qu'ils seront en mesure de découvrir sur un laboratoire de recherche secret en République occidentale. Sur cette Sylvia Smir peut-être infiltrée en France, mais aussi sur la possibilité d'une opération clandestine de transfert de technologie à nos dépens. Écoutez ce qu'ils ont à dire, reliez les informations entre elles et émettez des hypothèses avant de revenir pour rendre compte. Nous tirerons alors nos conclusions et ferons parvenir la note de renseignement la plus précise possible au chef de l'État pour qu'il détermine les mesures d'action à prendre. Ah, une dernière chose, colonel. En raison du rôle central de votre service dans cette opération, il vous revient de la baptiser d'un nom de code.
Oui.
Que suggérez-vous ?
Cette opération aura pour nom de code Isotope.
Alors on entend le début de la mission. Alors il y a à la fois la mission et puis il va y avoir justement les enjeux géopolitiques qui vont être exposés. C'est aussi ça que l'on voit dans l'exposition, la dimension dangereuse du renseignement et pas simplement aventurière. Et puis aussi tous les enjeux géopolitiques, là il s'agit de surveiller la prolifération des essais nucléaires.
Tout à fait.
Dans un état fictif.
Dans un état totalement fictif. Mais si vous suivez l'actualité, vous savez que on s'est largement inspiré de ce qui s'est passé avec la Corée du Nord ou avec l'Iran il y a quelques années. Donc là aussi, toujours dans cet objectif d'être au plus près de la réalité et des enjeux actuels de géopolitique. Et l'exposition va montrer aussi tout ce que la diplomatie ne montre pas, justement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, le visiteur va pouvoir se plonger dans ces fameux différents métiers, que ce soit analyste, que ce soit linguiste d'écoute, que ce soit interprète de cartes satellitaires, et donc découvrir l'ensemble des outils, qu'ils soient techniques ou humains aussi, qui sont utilisés par les services de renseignement pour justement contrer les menaces qui peuvent entraver la France.
Alors c'est les dispositifs qui sont creusés aussi dans la série du Bureau des légendes auquel vous avez consacré cet ouvrage, Bruno Fulnis. Ce sont aussi les méthodes utilisées, les dispositifs utilisés pour parvenir à ces missions de renseignement et de recrutement des clandestins. Alors ça passe d'abord par une écoute
Les écoutes téléphoniques.
Toutes les interceptions possibles, effectivement. C'est vrai que le renseignement, c'est un métier qui recouvre plein de métiers techniques. C'est pourquoi dans les services de renseignement, vous allez avoir aussi bien des gens qui ont une formation militaire ou policière, mais aussi des civils et en grande partie des ingénieurs, des scientifiques, des gens très très pointus. Il y a même des opportunités de carrière aujourd'hui importantes dans les services qui se développent. Ça, c'est un point important aussi, c'est que on pourrait penser que la technologie a simplifié la vie des espions. Des anciens me disaient, oui, autrefois c'était embêtant, il fallait avec une pince à cornichons trifouiller dans les boîtes aux lettres pour extraire le courrier. Aujourd'hui, je me branche sur votre boîte mail, j'ai accès à tous vos échanges, c'est beaucoup plus pratique. Oui, mais du coup, ça donne des masses considérables, considérables de données à traiter. Ouais. Je n'évoque pas la question des libertés, ces choses-là. Laissons ça de côté.
Sans parler de Bourchac outils, existe des contre-outils aussi technologiques et scientifiques.
Exactement. Et puis, ça nécessite des outils de tri, ça nécessite une main-d'œuvre extrêmement qualifiée pour analyser, hein, pour coter, classer, analyser cette masse informe de données et pour en faire ce qu'on appelle vraiment un renseignement. Il suffit pas d'avoir une série d'informations pour que ce soit du renseignement. Il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit crédible. Et donc on utilise des outils techniques, mais aussi, et ça qui m'amuse aussi dans une perspective plus historique, c'est qu'on continue également d'utiliser de vieilles technologies. Et par exemple, certains groupes subversifs ou terroristes finalement réussissent parfois à berner les grands services suréquipés parce qu'ils utilisent des méthodes qui ont fait leurs preuves. On transmet oralement ou... Vous savez, un jour, je discutais avec des techniciens des écoutes, justement, des gens dont le métier est de traquer les micros dans les bureaux, d'entrer dans votre téléphone. Et je leur disais, mais est-ce qu'il existe un moyen de télécommunication que vous ne pourriez pas intercepter? Et ils ont simplement éclaté de rire en me disant, monsieur, élevez des pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs restent aujourd'hui...
Une méthode envisageable.
Envisageable.
Vous faites des leçons. Vous, c'est comme ça que vous avez organisé votre ouvrage. Vous l'avez organisé sous forme de leçons.
Oui, comme un cycle de formation, parce qu'il faut savoir aussi que lorsque vous entrez dans un service de renseignement, vous avez beaucoup de choses à apprendre.
Alors, qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs des méthodes de recrutement, pour commencer par là, de l'information, puisque il y a, j'imagine, ce qui vous a été dit, Laurence Connésil, par la DGSE, il y a tout ce que vous ne savez pas. D'ailleurs, les méthodes utilisées dans le bureau des légendes ne sont pas toutes récentes, parce que la DGSE ne peut pas se permettre de tout dévoiler non plus.
Exactement.
Alors, le renseignement, c'est quand même le secret.
Tout à fait, c'est le secret, donc ils nous ont dit ce qu'ils voulaient bien nous dire. Néanmoins, comme on le disait en tout début d'émission, ce qu'on a pu découvrir, ce qu'ils nous ont révélé est quand même extrêmement loin des images que l'on peut avoir véhiculées par James Bond, etc. Donc ça nous permettait, nous, d'avoir des choses à dire. Et typiquement, quand on parle de tout ce qui est éléments sonores, de tout ce qui est interception sonore, dans l'exposition, en tant que visiteur, agent de renseignement, vous pouvez vous-même faire une écoute sonore, mais nous avons aussi la particularité de présenter un IMSI catcher.
L'IMSI catcher, qu'est-ce que c'est que l'IMSI
catcher? Voilà, c'est un outil technique il relève des techniques réservées, c'est-à-dire des techniques que seuls les services de renseignement sont habilités à utiliser après autorisation, après un certain nombre d'autorisations. Et bien cet IMSI catcher, il va intercepter tout un tas de données mobiles à l'insu du propriétaire du téléphone portable, mais aussi à l'insu de l'opérateur. Donc vous imaginez que c'est quand même extrêmement pratique. Et bien pour la première fois, la DGSI nous a prêté cet objet que nous avons pu présenter. Et donc, là aussi, on voit que dans l'exposition, bien sûr, on mène son enquête, on est là pour faire une affaire de contre-espionnage, mais chaque élément est mis en regard, en miroir, avec un élément réel des services pour montrer que oui, ce qu'on vous raconte, c'est vraiment comme ça que les services
fonctionnent. Et un temps qui dévoile encore plus, qui développe encore plus un imaginaire autour de ça. Bruno Fellini, pour en revenir au recrutement dans le Bureau des Légendes, il y a un certain nombre de personnalités qui sont repérées pour être recrutées, et puis le clandestin lui-même a pour mission de recruter des gens sur place qui vont donner des informations. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces histoires de recrutement au sein de la DGSE, de ce que l'on sait? Et puis ensuite, des recrutements faits par les clandestins.
Voilà. Vous avez raison, il faut vraiment distinguer deux choses. Il faut distinguer d'une part les officiers de renseignement qui sont membres d'un un service et qui sont pour l'essentiel des fonctionnaires. Il peut y avoir des contractuels, mais dans des postes très particuliers.
On sait comment ils sont recrutés?
Alors, si vous allez sur le site de la DGSE, car la DGSE a un site internet, vous verrez des annonces de concours, une adresse pour envoyer votre CV, tout. Voilà. Mais vous pouvez aussi, quand vous êtes fonctionnaire, je ne sais pas moi, dans l'armée, dans la diplomatie ou dans un ministère, vous pouvez faire acte de candidature pour passer une partie de votre carrière au sein de la DGSE. La DGSE prend même des stagiaires, en tout cas pour tout ce qui relève de l'informatique, des nouvelles technologies. Évidemment, les candidatures sont très triées, mais il y a plusieurs dizaines de stagiaires. On a même vu récemment un stand de la DGSE sur un salon, c'était bien avant le confinement, hein, sur un salon étudiant, en quelque sorte, pour dire, voilà, nous aussi, nous recrutons.
Donc l'idée sur laquelle on serait approché quand on a un certain nombre de qualités, elle existe quand même aussi, cette
option-là. Elle l'est aussi, mais attention, quand vous êtes approché, c'est dangereux parce que c'est souvent par un autre service, un service d'un autre pays, c'est-à-dire que là, vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment, qui lui est un professionnel du renseignement et qui est chargé de vous traiter, donc de vous recruter d'abord et de vous traiter, c'est-à-dire de vous tenir. Dans un premier temps, c'est très sympathique, il va vous dire des choses gentilles, il va aller dans votre sens, il va vous inviter dans des très bons restaurants, le champagne va couler à flot, ça va être merveilleux. Mais très très vite, dès que vous serez très légèrement compromise par une information même banale qu'on vous aura demandé comme un service, à partir de là, il va être remplacé par quelqu'un d'autre qui va avoir des demandes un petit peu plus pressantes. Et de contrainte, en jouant sur toutes sortes de leviers, eh bien vous allez être ce qu'on appelle un agent. C'est-à-dire que, contrairement au langage courant, l'agent dans le monde du renseignement, c'est pas le super agent, l'agent secret, c'est quelqu'un qui est manipulé, c'est quelqu'un qui est tenu par un professionnel du renseignement. Alors, qui va être son officier traitant.
Ça aussi, ça passe par des méthodes, hein, et des méthodes psychologiques qui sont aussi creusées dans cette exposition. Je vous propose d'écouter l'arrivée de Marina Loiseau.
Prête?
Je crois. J'espère.
C'est comme si vous preniez l'avion. Là-bas, c'est déjà l'Iran. Vous êtes déjà en mission. L'Institut physique du Globe de Paris, c'est pas votre nouvel employeur. C'est pas l'endroit où vous allez travailler tous les jours. C'est un territoire hostile. Votre territoire de chasse, infesté d'ennemis. Vous aurez trois types d'ennemis. D'abord les proies. Ce sont vos concurrents. L'un d'eux sera peut-être choisi à votre place pour partir en Iran. Vous devez les identifier, les observer, analyser leurs faiblesses et les écarter de votre chemin. Ce sont vos adversaires.
Là, vous avez l'atelier de maintenance, le labo de géodynamique. Ici, le bureau d'Alice Meunier.
Le second type d'ennemi, ce sont vos amis. Avec eux, vous baissez la garde, ils vous fragilisent, ils vous poussent à l'erreur.
Ah, Eric, le thésard en volcanologie physique.
Bonjour.
Bonjour. On essaye de le recruter pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais...
Les gens que vous aimez bien, il faut les détruire. Le troisième type d'ennemi, c'est le prédateur. C'est le seul qui peut vous abattre. Mais de lui, vous ne devez pas vous défendre. Vous devez le séduire. Vous devez l'attirer dans vos filets. Il doit croire que c'est lui qui vous choisit. Vous êtes comme l'orchidée qui attire l'abeille. L'insecte croit que c'est lui qui décide. Mais il ignore qu'il est le fruit de votre stratagème. Et à la fin, c'est vous qui avez le contrôle.
Alors là, on retrouve nos catégories. Bruno Fini, saison 1, c'était l'épisode 3, hein, le recrutement de Marina Loiseau, qui sort de Polytechnique et qui va devenir sismologue, qui va devenir agent, alors pas agent, clandestin, pardon, en Iran.
C'est-à-dire qu'elle entre à l'Institut effectivement de géophysique à Paris, mais en vue d'être sélectionnée, recrutée pour travailler en Iran. Et donc elle est déjà effectivement, comme c'est très bien dit, elle est déjà en mission, elle a déjà une identité fictive et elle passe pour une chercheuse en sismologie. Effectivement, elle a un très bon niveau, c'est une polytechnicienne, mais elle apprend de façon un petit peu expresse les bases de la sismologie. Ça aussi, c'est un des charmes du métier, c'est que en fonction de votre légende, de votre identité fictive, de votre couverture, vous allez devoir apprendre des métiers, et donc plus le métier est difficile, difficile, plus...
Il faut devenir compétent.
Voilà, il faut devenir compétent et ne pas se faire coincer sur une bêtise.
Laurence Connelly, il y a dans l'exposition ce laboratoire de détection, cette salle blanche par laquelle on entre, et on voit comment se passe la veille nucléaire avec un système de cartes, d'ordinateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la manière dont cette mission-là a été mise en carte est mise en place dans ce laboratoire?
Alors en fait, on a recréé le laboratoire, le laboratoire de surveillance qui est présent et qui est assuré par le CEA, puisque le CEA comprend un certain nombre de sismomètres qui sont des objets, des capteurs techniques qui enregistrent les ondes qui voyagent, on va dire, au niveau de la croûte terrestre. Et on a des ondes bien particulières qui sont diffusées lorsqu'il y a par exemple une éruption volcanique, un tremblement de terre, mais aussi quand un essai nucléaire a lieu. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, lors des essais nucléaires qui ont été faits par la Corée du Nord, c'est-à-dire que le centre de surveillance du CEA a enregistré, grâce à ses sismomètres, une signature, on va dire, ondulatoire tout à fait particulière, et ils ont pu avertir de façon extrêmement rapide le chef de l'État et ainsi mettre en place une cellule de crise, de surveillance, qui permettait donc à nos autorités d'avoir en temps réel la géolocalisation évidemment, mais aussi la caractérisation de cet essai, c'est-à-dire sa magnitude, sa puissance, et donc d'avoir aussi une idée de l'armement qui était entre les mains de la puissance qui avait fait cet essai. Puisque, comme vous le savez, évidemment, tous ces essais nucléaires sont totalement interdits.
Alors, on voit là l'importance des missions de surveillance, Bruno Fulini, aussi à distance, de la mission scientifique qui, elle aussi, est très présente dans ces missions-là. L'accent est mis sur le danger encouru par le clandestin, en tout cas celui qui fait partie du Bureau des légendes. Est-ce que c'est une réalité, cette dangerosité, sur le terrain, dans des pays notamment espionnés pour des raisons d'essais nucléaires ou autres?
C'est-à-dire qu'en général, quand on envoie quelqu'un sous une identité fictive, avec un long travail d'insertion, d'infiltration, c'est précisément parce qu'il est dans un territoire ou dans un pays extrêmement hostile, extrêmement dangereux. Par ailleurs, cette personne va... sous couvert d'autres activités, essayer de percer des secrets. C'est une mission qui, généralement, comporte des objectifs. Et donc, il va falloir manipuler un certain nombre de personnes, sachant qu'elles peuvent avoir accès à des données particulières, à des informations particulières, à des individus haut placés dans le système. Donc, il ne faut évidemment pas se faire démasquer. Et une partie de la formation de ces clandestins leur apprend comment, à un moment ou à un autre, eh bien, échapper à un certain nombre de périls qui peuvent aller jusqu'à la torture, la mort, hein, bien sûr. Donc ce sont des missions extrêmement périlleuses. J'ai eu l'occasion de discuter avec d'anciens clandestins qui, quelquefois, m'ont fait part de leurs moments de peur. Et on sentait que des années après, cette peur avait été extrêmement intense. Pas la peur sur un champ de bataille, c'est vraiment pas ça. La peur parce qu'on est dans un avion qui ne décolle pas, un train qui ne part pas, et on se demande si on n'a pas été démasqué d'une manière ou d'une autre, si on va pas être arrêté, mis sur le gris pendant des mois éventuellement. Et ils m'ont raconté ça. Et on sentait que c'était vraiment vécu. Et d'un point de vue cinématographique, il ne se passerait rien dans ces scènes. C'est un homme qui est dans un fauteuil et qui tout à coup a le vertige de ce qu'il a fait, de ce qu'il encourt et de ce qu'il risque. Et tout le travail qui a été fait en amont, c'est, bon, ça a son caractère. Mais
c'est aussi la question des masques successifs, hein, qui en même temps
aussi. Bien sûr, c'est la capacité à endurer cela, à ne pas s'affoler. C'est tout bête, mais ne pas s'affoler quand il y a un simple contrôle d'identité, car si vous partez en courant, vous dévoilez que vous avez quelque chose à vous reprocher. Donc il faut avoir une certaine foi en sa couverture, en sa légende, en son identité fictive, se dire c'est pas grave s'il y a un contrôle d'identité, puisque je suis un tel.
Alors, c'est vrai que l'une des questions évoquées, c'est celle des identités multiples, c'est celle aussi de l'agent double qui est évoqué dans le Bureau des légendes, hein, c'est le cas notamment de Malotru, mais pas uniquement de Malotru. Et là, on refait un tour par toute l'histoire de l'espionnage et du contre-espionnage, alors en Occident notamment, mais pas uniquement, et puis ceux de la guerre froide. On va écouter un extrait, c'est un extrait de l'épisode 3 dans la saison 2.
Comment on fait les autres? Comment on fait Philby, Ames, Pankowski, ces agents doubles? Est-ce qu'ils y pensaient toujours? chaque jour quand ils arrivaient au travail. Qu'est-ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes? De la honte? De l'excitation? De la tristesse? Donnez-moi un monde meilleur pour lequel je puisse me battre. Donnez-moi une dictature pour que j'entre en résistance. Donnez-moi une addiction pour que je l'assouvisse. À quoi pensaient-ils quand ils s'installaient à leur bureau et commençaient leur journée de destruction?
Alors on retrouve dans cet extrait-là, on entend Mathieu Kassovitz, alias Malotru, qui lui aussi devient agent double. Cette question-là, elle a traversé aussi l'histoire de l'espionnage, hein, l'inquiétude que l'espion le mieux renseigné puisse se passer dans le camp adverse.
Surtout l'histoire du renseignement est une histoire de retournement, de trahison, bien sûr, et c'est ce que redoute le plus un service. Alors d'abord une trahison, et puis surtout une trahison à un haut niveau, c'est-à-dire d'avoir un haut responsable ou quelqu'un qui a un degré d'habilitation très poussé, qui a une vision large malgré le cloisonnement des choses, eh bien puisse passer au service de l'ennemi. Et par exemple, il cite le fameux Philby, donc l'un des cinq de Cambridge. Philby a fait des dégâts considérables puisqu'il était au sein des services secrets britanniques à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir dire à ses traitants soviétiques eh bien qu'une opération se préparait, par exemple pour débarquer en Albanie, etc. Donc lorsque les espions arrivaient, eh bien ils étaient abattus ou arrêtés immédiatement. Et on n'a pas compris pendant très longtemps qu'il y avait une fuite à un niveau aussi élevé.
Alors, d'où l'idée du droit à en connaître qui est développé dans la série, le niveau d'habilitation très important qui fait partie du cloisonnement. Dans cette exposition, on entend aussi Laurence Connelly, un certain nombre d'agents, enfin d'espions de la vie réelle qui sont interviewés de manière anonyme ou d'anciens qui témoignent. Alors tous avec une certaine distance de ton d'interview, c'est assez marquant, comme si les méthodes d'interrogatoire, les méthodes de communication avaient été pas complètement tellement assimilées que c'était devenu la manière de parler, quoi.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que dans l'exposition, nous avons pu interviewer 14 agents de renseignement actuellement en activité. Et donc tous nous ont parlé bien sûr de leur métier, de leur formation, comment ils étaient rentrés dans les services, mais aussi de comment ils géraient leur vie personnelle, puisque ils ont effectivement un rapport au secret très particulier, puisque quand ils rentrent chez eux, à la différence de vous et moi, ils ne peuvent pas révéler quel est leur véritable métier et comment aussi on gère donc ce mensonge, au moins par omission, au quotidien, et comment on gère aussi son ego. Donc c'est vrai que pour nous c'était très impressionnant de rencontrer ces personnes qui nous ont tous dit que lorsqu'ils devaient se présenter, se faisaient toujours passer pour les gens les moins intéressants de l'Assemblée. Et en fait, ce sont des gens particulièrement passionnants, qui ont des métiers passionnants, mais qui voilà doivent être toujours dans le contrôle et la protection du secret, évidemment.
Alors, on assiste dans la réunion de rédaction justement à des briefings, à des réunions de crise, mais il y a aussi un certain nombre d'outils qui permettent de parer et de maintenir ces identités, ces légendes là. Peut-être vous pouvez nous en raconter quelques-unes. Il y a la technique du désilouettage, voilà, qui est montrée.
Exactement, ça on a travaillé avec la DGSI là-dessus. C'est que lorsque vous vous souhaitez faire organiser une surveillance, et donc organiser par là même une filature, souvent dans les films on a l'impression qu'il y a une ou deux personnes pour suivre quelqu'un. En fait, absolument pas. C'est un travail extrêmement minutieux, compliqué, qui demande une concentration terrible. C'est une organisation avec une équipe d'environ 15 personnes, évidemment du matériel technique, le fameux sous-marin qui permet d'avoir à disposition des micros, des téléphones portables, etc. Mais aussi, lorsqu'on file quelqu'un, on filoche, on parle de filature mais de filoche, lorsqu'on filoche quelqu'un, il peut s'avérer que on soit soi-même
filoché. Vous voyez, toujours les poupées russes. Et donc, dans ce cas-là, on utilise la technique du désilhouettage, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un changement de direction, un coin de rue, de façon extrêmement rapide, vous allez changer un élément de votre vêtement, qui est souvent un élément qui est assez fort. Si vous avez un blouson en cuir, vous allez passer avec un trench, par exemple, donc pour changer véritablement. Vous n'avez plus de chapeau, etc. Et vous allez aussi, au-delà de l'élément matériel, changer votre posture. Une façon de marcher un petit peu différente, une façon de se tenir un petit peu différente, pour que vous puissiez, si jamais vous étiez vous-même suivi, vous fondre dans la foule de façon extrêmement rapide.
Alors on voit aussi dans cette exposition que la question du renseignement, c'est aussi et surtout une question de hiérarchie des fonctionnaires, hiérarchie de l'information et des enjeux géopolitiques. On va écouter Jean-Claude Cousseran qui est interviewé dans l'exposition.
Les services en général ne travaillent pas comme les autres administrations ou comme les entreprises ou comme toutes les structures habituelles. Il y a une règle dans les services qui est liée à l'obligation de discrétion et au fait que les services travaillent plutôt dans le secret. Cette règle, elle a un nom un peu bizarre, c'est la règle du « à en connaître ». Cela signifie très simplement l'idée que l'on ne partage pas une information avec une autre personne, un autre membre du service, si cette personne n'a pas à connaître par ses fonctions de l'information en question. Cela induit un cloisonnement. Et on appelle cela d'ailleurs le cloisonnement. Ce n'est pas l'idéal en matière d'information, ce n'est pas l'idéal en matière de gestion, mais c'est une nécessité absolue pour des services dans lesquels la discrétion, le secret doivent être absolument préservés.
Bruno Funi, c'était donc l'ancien directeur de la DGSE qu'on entendait. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces méthodes de hiérarchie, de ces règles extrêmement strictes qui sont aussi revisitées dans le Bureau des légendes, hein. Ne pas obéir à une règle, c'est à la fois mettre en danger les autres, les informations et soi-même.
C'est très grave parce que vous mettez en danger tout le service en fait. Le cloisonnement, c'est d'abord une protection. Mais c'est pourquoi souvent quelqu'un qui travaille pour un service de renseignement ne sait pas exactement pourquoi il fait ce qu'il fait. Il a une petite mission, vous allez chercher quelqu'un ici, vous le transportez 30 km plus loin, vous ne savez pas forcément qui est cette personne, ni à quoi rime ce trajet. Et vous n'avez pas à le savoir, parce que si on vous arrête, si on vous interroge, il ne faut pas que vous puissiez faire tomber les autres. Donc le cloisonnement, c'est vraiment une règle très importante. Le cloisonnement est très fin quand vous êtes dans le bas de la hiérarchie, et plus on grimpe dans la hiérarchie, plus vous avez des individus qui ont une vision large des missions. Et puis n'oublions pas que tout à fait en haut, eh bien, il y a le moment où le patron, mettons de la DGSE ou d'un autre service de renseignement, eh bien, va livrer un rapport, va livrer quelque chose de finalisé à ce qu'il appelle ses clients, c'est-à-dire le chef de l'État, le chef du gouvernement, son ministre de tutelle. Et là, on passe du renseignement à l'exploitation. C'est-à-dire que moins on est cloisonné, plus on s'approche, en fait, du pouvoir et de la décision politique. Donc il ne faut pas qu'il y ait un décloisonnement trop bas dans la hiérarchie. Sinon, forcément, ça ne va pas marcher. Vous risquez d'avoir des fuites et vous risquez d'avoir des agents démasqués.
This is how we start. I will leave you now. Give me back my heart.
Et on écoutait la BO du Bureau des légendes par Jeanne Haddad. Chloé Aberhart est parmi nous pour cette deuxième partie de la Grande Table d'été qui continue pour parler des espionnes qui racontent, série adaptée du livre publié aussi en 2020, publié en 2017 et la série adaptée sur Arte en 2020. Bonjour Chloé Aberhart.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes en direct en duplex de Toulouse, de France Bleu Occitanie. Alors peut-être racontez-nous d'abord ce projet, d'abord de livre, puis de série sur Arte. L'idée de s'intéresser en particulier aux femmes, aux espionnes, grandes oubliées de l'histoire de l'espionnage et pourtant qui sont là depuis les débuts, depuis que l'espionnage existe.
Oui, alors au début elles étaient vraiment minoritaires dans les services de renseignement. Et en fait, j'ai eu l'idée de ce projet en 2010. À l'époque, j'étais journaliste indépendante. Et cette année-là, les Américains ont identifié 10 espions russes sur leur sol, dont une femme, une rousse très belle, qui correspond tout à fait au cliché que l'on a dans la fiction, qui s'appelle Anna Chapman. Et à l'époque, j'avais fait un article sur elle pour la presse féminine. Et je m'étais rendu compte, à l'occasion de mes recherches, que finalement, il y avait assez peu de livres sur des femmes officiers de renseignement aujourd'hui, que la plupart des ouvrages étaient historiques et s'intéressaient à des grandes figures, toujours un peu les mêmes, Mata Hari, Josephine Baker, et avaient tendance à entretenir le mythe de l'intrigante sexy qui, depuis, a nourri l'imaginaire cinématographique et les romans SAS, etc. Et je m'étais dit, tiens, ce serait un beau défi d'essayer d'en rencontrer aujourd'hui et de voir à quoi elles ressemblent, combien elles sont, est-ce qu'elles ont été utilisées de la même façon que les hommes. Et donc j'ai commencé modestement...
Une enquête qui va durer 5 ans sur ces femmes espionnes. Oui. C'est en particulier les femmes espionnes pendant la guerre froide qui vous ont intéressé, Chloé Aberhart.
Oui, alors pour être tout à fait honnête, cette idée je l'ai eue en cours de route parce que je me suis rendu compte, comme disait la commissaire d'exposition tout à l'heure d'ailleurs, que les femmes qui étaient encore en exercice, évidemment, sont tenues au secret. Et moi j'avais vraiment envie de rencontres, donc de ne parler que de femmes que j'avais rencontrées et de femmes que j'avais rencontrées longuement. Je m'étais fixé un minimum d'un certain nombre d'heures à avoir passé avec elles. Et je voulais vraiment qu'elles me racontent soit une opération à laquelle elles avaient participé si elles ont fait du terrain, soit un dossier qu'elles avaient traité si elles étaient analystes, donc travaillaient plutôt dans les bureaux, ce qui supposait donc que ces affaires soient déclassifiées. Et en fait, bah forcément, je me suis rendu compte que les seules à même d'accepter de me parler étaient retraitées.
Alors les retraités, ça a été en même temps le panel est assez vaste. Hein, c'est les retraités de la CIA, mais aussi du KGB, du Mossad, du MI5. Oui.
Bah, j'avais cette excitation de néophyte au début. Voilà, je me suis dit je vais voir si je suis capable d'avoir un casting international et de. Enfin, j'avais aussi ce fantasme au début. Moi, je travaillais pas du tout sur les questions de défense et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de rencontrer quelqu'un du KGB. D'ailleurs, au début, je n'y croyais pas. Les premières réponses positives que j'ai reçues du Mossad ou des Russes, c'était un événement.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous-même, vous vous mettez en scène à la première personne en tant que journaliste intervieweuse, utilisant presque des techniques d'espionne pour réussir à gagner la confiance de ces espionnes à la retraite et pour qu'elles se livrent.
En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun, alors toute proportion gardée, hein, entre le métier de journaliste et celui d'officier de renseignement, qui est de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas le droit ou qu'il n'avait pas l'intention de vous dire au départ. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui au début m'ont dit, notamment l'allemande, qui a été une taupe au sein des services ouest-allemands pour l'Allemagne de l'Est pendant 17 ans. Elle au début ne voulait pas me parler et quand finalement elle a accepté de me rencontrer, je lui avais dit on parlera des femmes dans le renseignement en général, on parlera pas de votre cas à vous. Et puis au final, j'ai passé du temps avec elle, on a mangé des gâteaux sablés, je lui ai raconté ma vie, et puis de fil en aiguille, elle s'est livrée aussi. Et en fait, il y a tout un travail d'approche. Je me suis rendu compte aussi que écrire un mail depuis Paris en disant « je suis journaliste indépendante et j'aimerais vous rencontrer », ça suffit pas en fait. Évidemment, il faut être introduit par quelqu'un du milieu, éventuellement un ancien collègue, donc ça veut dire qu'il faut rencontrer pas mal d'intermédiaires.
Alors vous, c'est ce qui s'est passé pour vous, hein, vous avez été aidé par un ancien de la DGSE.
J'ai été aidée par pas mal de monde dans le livre et dans la série pour Arte. J'ai mis en valeur un personnage en particulier qui est un ancien de la DGSE, quelqu'un de vraiment délicieux qui m'a servi de conseiller technique et qui m'a aussi mis en contact avec un ancien collègue américain de la CIA grâce à qui j'ai pu rencontrer l'une des deux américaines.
À qui vous avez créé une légende hein, d'ailleurs pour le livre. Hein. Vous lui avez créé une autre identité encore pour le livre, Chloé Bérard.
Oui, bien sûr, il voulait pas être reconnu, donc c'était très agréable de lui choisir un pseudonyme qu'il a beaucoup aimé d'ailleurs. Mais ce qui est amusant, c'est quand il s'est agi de choisir un acteur pour faire sa voix dans la série d'animation pour Arte, je lui ai demandé à lui et il était ravi en fait de faire sa propre voix.
Alors peut-être un petit mot, Bruno Fulini, sur cette l'histoire des espionnes. Hein. Chloé Bérard disait, on s'est intéressé surtout aux courtisanes. Vous-même, vous avez écrit un livre sur Mata Hari. Alors pourquoi cette image première et pourquoi est-ce Mata Hari qui a été l'objet comme ça d'autant d'attention?
Disons que le cas de Mata Hari est complètement à part, puisque Mata Hari était une célébrité de la scène, la danseuse nue très très connue à partir de 1905, qui dans un deuxième temps, au moment où elle est un petit peu ringardisée sur la scène de la danse, eh bien, se cherche une nouvelle carrière dans l'espionnage. Et lorsqu'elle sera prise et exécutée, c'est vraiment une vedette mondialement connue qui est fusillée. C'est pour ça qu'elle a beaucoup marqué. Et puis, il y a la dimension érotique, évidemment. Mais nous sommes à une autre époque. Nous sommes à une époque, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale, où les services de renseignement sont exclusivement masculin si on s'intéresse aux officiers de renseignement, aux fonctionnaires. Bien sûr, ils utilisent des femmes.
Et depuis
longtemps. Mais ils utilisent des femmes, soit ils les manipulent, soit ils les utilisent pour des missions très ponctuelles. Elles ne sont pas officiers de renseignement. On va utiliser des domestiques pour aller fouiller dans les placards, dans les tiroirs, dans les poubelles. On va utiliser des prostituées, on va utiliser des courtisanes pour recueillir du renseignement sur l'oreiller. Mais elles ne sont pas du tout légales des officiers de renseignement qui animent les services.
On va faire pression sur
on va les utiliser aussi, bien sûr,
d'une manière ou d'une autre.
Bien sûr, et ça, les Russes vont le faire très longtemps et continuent de le faire d'une certaine manière avec des hirondelles pour compromettre des gens et pour ensuite avoir un levier, un moyen de chantage. Sauf que ce qui se produit au cours du XXe siècle et surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est que vous commencez à avoir des femmes qui entrent, elles, comme fonctionnaires dans des services de renseignement et même qui vont accéder à des postes de responsabilité. Ça ne se fait pas tout seul, mais là, c'est différent. Ce sont des femmes qui sont formées et ce sont des femmes qui n'ont pas besoin d'aller dans des chambres d'hôtel pour cela. Alors, il y a le cas d'Anna Chapman qui est complètement à part parce qu'elle joue justement sur les deux registres. C'est pour ça qu'elle a beaucoup plu aux médias, cette rousse flamboyante qui est officier de renseignement dans le renseignement extérieur russe et qui a ensuite, une fois qu'elle a été prise et échangée, posé comme mannequin, animé des émissions de télé, qui s'est vedettarisé et qui a finalement retourné, utilisé ses poncifs. Mais son cas est tout à fait
Mais à ça
part.
Va être quand même le cas de plusieurs femmes. D'ailleurs, vous allez pouvoir raconter cette histoire, Chloé Bérard, d'être une femme au sein du milieu de l'espionnage. On va commencer par écouter la bande-annonce de vos espionnes.
Moscou, 89. C'est à l'entracte que tout se joue. Surplombant le hall d'entrée, Jonah pilote l'opération, millimétrée. Lara Leonov et sa doublure se joignent à la file des spectatrices qui patientent à l'entrée des toilettes. Pour ne pas éveiller les soupçons du KGB, elles devront échanger leurs identités en moins de 3 minutes. Jonas est une figure de la CIA. Chez elle, on a parlé de comment Hollywood aidait les services secrets américains à monter leurs opérations. J'ai aussi rencontré une taupe de la Stasi, une traqueuse de nazis du KGB, une aventurière du Mossad. Tout tombe bien cassé le mythe. Dans l'imaginaire collectif, une espionne est une intrigante sexy qui couche pour obtenir des informations. Or, ce que ces espionnes m'ont raconté, c'est une toute autre histoire.
Chloé Bérard, alors on voit à travers ce générique, cette bande-annonce, la diversité des profils de personnalités que vous avez pu rencontrer d'anciennes espionnes. Il y a tout en commun quand même cette idée de se faire une place dans ce monde d'hommes. Soit elles rentrent dans les renseignements par l'intermédiaire de leur conjoint, soit il y a une histoire de séduction au début, vous en parlez. Chloé Bérard. On ne vous entend plus. Bruno Fulini, peut-être on peut parler de ces couples aussi hein, qu'on a pu évoquer dans le milieu de l'espionnage. Jonah et son mari Tony Mendez font partie de ces exemples-là. Les femmes qui commencent à être recrutées après la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi beaucoup à l'Est que ça se passe.
Ça se passe, oui, aussi à l'Est. C'est vrai qu'à une époque, les services encourageaient un petit peu les mariages en leur sein. Ça permettait de résoudre, d'une certaine manière, la question de la confidentialité. Si les deux membres du couple sont membres du service, ils peuvent mieux comprendre un petit peu les absences de l'un et de l'autre. Mais ça a d'autres inconvénients.
Pendant la guerre froide, on voit qu'il y a d'autres particularités, il y a d'autres problématiques qui se posent. C'est, dans ce contexte particulièrement tendu, il va y avoir des espions infiltrés de l'autre côté, par exemple à l'ouest, qu'on va soupçonner d'être passés dans l'autre camp et qui vont parfois se retrouver dans des situations extrêmement complexes. Ça va être toute l'histoire de la guerre froide.
Oui, mais la guerre froide est un jeu d'échecs où en permanence on essaye de manipuler des individus, des gens qui des fois se dévoilent stupidement par des dépenses, par des attitudes qui ne sont pas normales chez un officier de renseignement. On va pouvoir discerner que cette personne est devenue amoureuse de quelqu'un qu'il manipule ou a soudain des revenus très supérieurs à ceux qui devraient être les siens. Et c'est comme cela qu'ont été démasqués aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest des gens comme Ames ou des super espions. Et puis on a des femmes qui ont joué ce rôle-là. On a des femmes aussi qui ont gravi les échelons administratifs, puisque depuis le début, je me répète, je suis désolé, mais c'est hiérarchisé un service d'espionnage. Et je crois que la grande nouveauté des dernières décennies, c'est d'avoir des femmes qui sont à des postes de direction, des postes de responsabilité. Par exemple, chez les Britanniques, on a eu Stella Remington, qui était à la tête du MI5, c'est-à-dire du renseignement intérieur. Et elle a été absolument redoutable, par exemple, pour les Irlandais de l'IRA, absolument redoutable d'efficacité dans son rôle de contre-terrorisme, parce qu'elle a eu des idées que peut-être des hommes n'auraient pas eu. C'est-à-dire qu'on pouvait contrôler les gens à travers leur consommation d'électricité, le nombre de bouteilles de lait qui leur étaient livrées, etc. Donc elle a su, par l'utilisation de choses qui semblaient très humbles et peut-être pas très intéressantes à la base, savoir ce qui se passait à l'intérieur d'une maison. Si par hasard on cachait pas des gens dans la cave, si on n'avait pas une consommation un petit peu anormale, si, à quelle heure on allumait les lumières, vous voyez, ce genre de petites choses.
Par des biais intimes, en réalité, de l'intimité pratique.
Alors aujourd'hui, c'est pratiqué par tous les services, mais elle a vraiment apporté cela. Alors, est-ce un progrès ? On peut en discuter, mais elle a apporté cette dimension-là au renseignement moderne et elle n'a pu le faire parce qu'elle a gravi tous les échelons pour être la patronne, la première britannique à diriger un service de renseignement. C'est pas du tout la même chose que d'aller séduire un marin en goguette pour faire remonter quelques informations sur le bateau où il s'est embarqué. On est à des niveaux de responsabilité complètement différents.
Chloé et Bérard ont parlé de Jonah Mendès, peut-être l'histoire la plus forte hein, de cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre rencontre avec justement elle et cette idée qu'elle est identifiée à cette personnalité? Alors là, au sommet d'une avancée technologique, avec cet imaginaire aussi du gadget.
Oui, avec l'art du storytelling des Américains, elle se présente elle-même comme Q, le personnage dans James Bond. À la différence notable que Q, lui, fabriquait les gadgets, et elle, avec son époux Tony Mendes, qui a inspiré le film Argo, d'ailleurs, de Ben Affleck, eux, en fait, tous les deux, leur service s'occupait d'apprendre aux officiers et aux agents sur le terrain à utiliser les gadgets. Donc, utiliser la caméra cachée dans le stylo qui permettra à la secrétaire, pendant la réunion, de prendre en photo les documents secrets, par exemple, ou à apprendre, justement, les agents sur le terrain ces techniques de désilhouettage dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ce qui est assez amusant dans le cas de Jonah Mendes, c'est qu'elle m'a expliqué comment est-ce que la CIA avait, selon elle, un temps d'avance sur les soviétiques, parce que la CIA était aidée des maquilleurs et des magiciens de Hollywood. Et il y avait notamment ce maquilleur, John Chambers, c'est lui qui a inventé les masques des singes dans La planète des singes, était un de leurs conseillers récurrents, qui les a aidés justement dans l'opération que je raconte dans la série, qui les aidait en fait à imaginer leur scénario d'exfiltration.
Alors ça, on va peut-être en dire deux mots hein, de ce scénario qui est quand même incroyable d'exfiltration au théâtre.
Oui, c'était en fait la CIA disposait d'une source extrêmement précieuse, un haut gradé du KGB, qui avait peur d'être découvert et qui risquait vraiment des interrogatoires épouvantables. Et donc, il a signalé, en fait, avec le signal convenu, il a signalé sa crainte avec le signal d'alerte. Et donc, là, Jonah Mendes a été sollicité pour organiser son exfiltration, la sienne ainsi que celle de sa femme. Et donc, il a fallu justement imaginer un scénario, c'est pour ça que c'est très romanesque hein, dans leur profession à eux, pour le faire sortir du pays au nez et à la barbe de ses collègues de la surveillance qui ne le quittaient pas d'un pouce, puisque c'était quelqu'un qui avait accès à énormément d'informations très importantes.
Alors...
Et donc, ils ont choisi un lieu bondé, qui était l'opéra, pour organiser en fait un échange d'identité entre des collègues de la CIA qui se faisaient passer pour des touristes et le couple de Russes. Ils se sont, c'est assez basique pour le coup, ils ont vraiment échangé leurs vêtements
et
leur apparence.
Et ce fameux collier. Juste un dernier mot, en quelques secondes s'il vous plaît. Cette histoire de Gabriele, il y a eu des femmes qui ont payé très cher le fait de devenir espionnes. On a d'ailleurs l'impression qu'elles ont payé pour les autres.
Alors dans le cas de Gabriele Gast, c'est assez spécifique parce qu'on est dans le contexte des deux Allemagnes. Et en fait, elle, donc c'était une taupe de l'Allemagne de l'Est au sein des services ouest-allemands.
De la Stasi, oui.
Donc en fait, on a considéré qu'elle avait trahi le service qu'il employait, qui était le service ouest-allemand, alors que ses traitants, qui eux étaient donc de RDA, d'Allemagne de l'Est, on a considéré après la chute du mur, la justice a considéré que eux, ils avaient fait leur travail en fait, de recruter des ouest-allemands pour leur amener des informations. Donc elle a le sentiment effectivement qu'elle a pris pour tout le monde puisqu'elle a fait de la prison. Alors que Marcus Wolf, le maître espion est-allemand qu'il avait recruté, lui, s'en est sorti avec, je crois, 9 jours de détention et c'est tout.
Merci beaucoup. On est obligé de s'arrêter là. Merci Laurence Conesil, Bruno Fulny et Chloé Hébérard d'être venus parmi nous, courir voir l'exposition Espion à la Cité des Sciences, lire Le Bureau des Légendes aussi de Bruno Fulny et Chloé Hébérard, votre ouvrage Les Espionnes racontent, ainsi que la série d'Arte. Tout de suite, c'est le moment de la fiction. Imagine le monde de demain.
Le monde de demain. Une fiction écrite par Jali Barcilon.
Le monde de l'avant-veille. Le vendredi, tu étais en tournée dans des collèges. Tu parlais à des centaines d'adolescents, de Colton Harris Moore. Tu leur parlais de son enfance passée dans un mobilhome, de sa vie de white trash en Amérique, de sa soif de vengeance et de son besoin d'envol. Et vous, leur demandais-tu, pour quelle étoile, pour quel désir pourriez-vous prendre le risque de sacrifier la vie longue et de préférer la vie brève? Tu pensais que le monde de demain, c'était un week-end à Lorient. Mais les premiers cas arrivaient. Ton ami a pris peur. Le directeur de théâtre t'a dit au revoir, on s'embrasse hein, quand même. Tu regardais les foules de collégiens dans les couloirs, ce qu'ils se touchent, mon Dieu. Le monde de demain, tu ne seras pas au bord de la mer. Les collégiens seront atomisés. Tu retourneras dans ton appartement à Paris, rez-de-chaussée sur cour. Le monde du lundi 16 mars. Le dimanche, tu regardes une vidéo. Un journaliste français installé à Wuhan filme sa résidence surveillée, sa femme déprimée. La ville désinfectée à chaque seconde. Tu paniques. Prends un billet pour Poitiers, mercredi. Tu rejoins tes amis. Tu désertes Paris. Tu as peur d'être prisonnière. Mais le lundi, ta mère t'appelle. Ton beau-père est hospitalisé à l'hôpital Saint-Antoine. Le monde de demain, tu le vois clairement. Ta mère et ton beau-père asphyxiés. Une pichenette du corona et c'est fini. Ciao les boomers, comme l'écrivent les ados. Fallait pas nous voler notre vie. Juste retour de bâton. Vengeance de la nature. Pangolin, porte-parole de la faune en colère. Le monde du mardi, 1 million de Parisiens se ruent dans les gares. C'est la guerre, c'est l'exode, c'est bizarre. Ton train pour Poitiers est annulé. Tu n'iras pas à la campagne, tant mieux. Tu ne te voyais pas laisser ta famille et ses hommes aux poumons abîmés. Tu n'as jamais autant écouté de virologues. Tu as passé des heures à regarder un spécialiste animant une conférence sur les virus à couronne au Collège de France devant une salle vide. Ça te touche, son côté désolé d'être expert en virus à couronne. Tu te demandes ce que c'est que de partager sa vie avec un spécialiste des virus à couronne. Le monde des après-midi suivants. Tu restes à Paris. Tu regardes les photos de tes amis partis à la campagne. Et ça te fout les nerfs. Tu oublies que toi-même, tu as failli partir à Poitiers. Ce fut comme ça pendant la peste. Fuir les faubourgs, la misère, les nids à microbes. Les bourgeois vont dans leur château et laissent la plèbe à Paris. Tu comprends, ça m'angoissait trop, je pouvais pas rester. Tu maudis les pensées bourgeoises. De retour le 12 mai, ils trouvent des souris chez eux, quelle horreur. Tu aurais aimé que ce soit de gros rats. Il paraît qu'après la peste, les riches ont aboli le servage. Une bonne grosse peste et le capitalisme va changer de cours. Tu ne penses pas à ça. Tu n'étais pas cynique, mais tu le deviens. Tu adoptes le ton de Michel Houellebecq. Demain sera pareil, mais en un peu pire. Ton beau-père est sauvé. C'est un miracle. Tu reprends de l'air. Ta cousine médecin a peur pour l'un de ses patients, un homme africain qui vit en foyer. Il a 75 ans. Son imagerie pulmonaire est terrifiante, mais il ne veut pas aller à l'hôpital. La mort ne touche pas indifféremment les riches et les pauvres. C'est faux, tu en es sûr. Tu n'as pas oublié Key West. Au paradis, les anges ont tous des Weston.
Un jour...
Toujours le monde pendant.
Un jour, bientôt peut-être. Un jour, j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers.
On te lit un poème de Michaud,
avec la sorte de
clown,
courage qu'il faut pour être rien,
et tu t'y reconnais.
Rien. Je lâcherai ce qui
l'intense trouille est passée. Et te voilà réduite à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait.
Je le romprai.
Ce curieux printemps qui s'abat sur Paris, tu commences à l'aimer. Sur une place, à côté de chez toi, les enfants ont dessiné au sol leur vision de la ville. Des fenêtres avec des adultes qui sourient, mais derrière des barreaux. Tu marches dans cette ville devenue calme comme un rêve. Tu voudrais que Paris demain soit comme un dessin de livre pour enfants, avec la boulangerie, la boucherie, le fleuriste, l'école, la bibliothèque, des bus, des vélos, des oiseaux, des jardins et le soleil. Une amie t'a appris sa technique pour choper un brin de soleil. Tu te mets sur un transat dans ton salon à ras du sol et tu bronzes. Tu suis le soleil et tu découpes le temps. Et quand la reine d'Angleterre fait son discours, tu n'en as jamais entendu d'aussi beau. Les jours où tu te mets à réécrire de la poésie, les beaux jours vont revenir. À nouveau, nous serons avec nos amis, avec nos familles. On dirait du Tchekhov. Mais c'est la reine Elisabeth II qui a fait hier son 4e discours en 68 ans de règne. Elle ne parle pas beaucoup, la reine. Mais quand elle parle, ça vaut le coup. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Les beaux jours vont revenir. Je vais vous revoir, mes amis, ma famille. Les épidémies ont un temps, long ou court. Court ou long. En tout cas, elles ont un temps, les épidémies. Elles tuent et puis elles passent. Nous ne nous retrouverons pas tous. Mais pour certains, pour beaucoup, j'espère. Les beaux jours vont revenir. C'est ma mère qui m'a parlé de ce discours. Ma mère vit à plus d'un kilomètre de chez moi, à 30 minutes à pied, et je n'ai pas le droit d'y aller. Ma mère et ses frères et sœurs, enfants, ont quitté l'Égypte. Ils ont été séparés, placés dans des familles, le temps que leurs parents trouvent un appartement en France. Nos possessions, ce ne sont ni une terre, ni des empires. Nos seuls biens, ce sont les nôtres, nos amis, nos familles, et nous nous retrouverons. Nous vivons aujourd'hui comme des exilés, dans une même ville mais séparés. Les jours interdits. Le monde craquelle. Derrière les murs, des hommes s'effondrent. Des femmes se font frapper. Des enfants se recroquevillent. Dans des chambres vides, il y a des gens qui meurent. Et pourtant dehors, il fait beau. Tu appelles tes amis. Tu leur demandes s'ils osent faire des choses interdites. Tu les écoutes et te racontes des choses que tu trouves si belles que tu voudrais un jour faire entendre ces voix, les voix de la petite dissidence.
J'ai rendu visite à des amis.
J'ai traversé Paris à vélo.
J'ai pris un sentier inhabituel.
J'ai zigzagué, les cheveux au vent.
J'ai dépassé le kilomètre.
J'ai traversé un bout de forêt.
J'ai fait un câlin à un enfant.
Je suis allée déjeuner avec un homme que je n'aurais pas fréquenté autrement.
Deux pans sont apparus.
Un homme plus âgé que moi.
C'était magique.
Ce matin, tu as mis Radio Sedad. Eux, un amour de jeunesse t'a rappelé, en plein craquage. 4 semaines de solitude l'ont rendu fou. Tu as aimé cet homme il y a 20 ans. Je ne sais pas s'il reste des couleurs à votre amour, mais tu te poses cette question. Cet homme revenu du passé a-t-il ouvert une brèche dans le temps? Tes amis, tes amours, tes disparus vont peut-être revenir. Il y a tant de silence ici. Tu ne sais pas. Tu hésites. Es-tu entré dans une pièce de Yon Foss? Et jamais nous ne serons séparés. Les jours s'en vont. Quand la lumière baisse et que le noir se fait. Ou t'es-tu noyé dans un poème d'Henri Michaud? Quelque part, quelqu'un, sa pirogue, c'est son île. Dans le temps suspendu de nos toutes petites îles, le temps est-il venu que tu retrouves Edmond, Nadia, Juliette, Adrien, Denise, Laure, Jean-Loup, Samuel, ceux qui sont depuis des années dans le temps suspendu, ceux qui ont choisi le grand départ parce que le fracas du monde c'était trop, parce qu'ils ne voulaient plus allumer la radio ni écouter les infos. Quand le temps viendra de finir notre temps, qui sait si toi aussi, quelque part, quelqu'un, tu ne te demanderas pas pourquoi tu as perdu ta jeunesse à faire des jobs à la con? Pourquoi tu t'es tué à bosser tant d'heures par semaine? Pourquoi tu as passé une partie de ta vie à te casser le dos, à ronger ton frein, à faire des ronds de jambes, à courir après le fric, les likes, les buzz, toujours dans le coup, au goût du jour et tout le tralala? Combien de bottes de fa as-tu léché? Combien de pompes de m'as-tu vu quand je t'écrase, as-tu ciré, pour attraper un bout de comète, un pompon, un éclat de lumière, un ticket pour un tour de manège, et repartir dans la course? On achève bien les chevaux. Dans ces jeux mortels qui te rappellent W ou le souvenir d'enfance, tu joues à un jeu dont les règles changent tout le temps. Ton allié d'hier devient ton ennemi d'aujourd'hui. Tu te casses la gueule. Tu te relèves ou tu crèves. Tu vois tes amis trop fragiles, ceux qui n'ont plus de souffle, jetés sur le bas-côté, qui craquent, picolent, partent pour la maison de repos ou pour le grand départ. Et pour pas finir comme eux, tu cours encore. Ma nostalgie se transforme en désir et en rage. Pourquoi la vie est-elle si dure pour tant de gens? La vie ne devrait-elle pas être pour tous les quelqu'un quelque part? Oh ma sœur, songe à la douceur. Un défilé d'amis, d'amour, de chansons, de fêtes, de métiers qu'on aime. Et tout ça sans fracas ni peur du lendemain. Tu étais devenue sage, complaisante, polie, ritualisée, respectueuse des lois. Mais après la visite de cet amour ancien, tu n'as plus qu'une envie. Boire de la vodka, trouver une boîte de nuit déchaînée, exploser les parois de la moralité. Le monde de demain. Tu te demandes quel théâtre tu pourras écrire demain. Tu lis le rapport Bricaire. Tu flippes. Un journaliste fait de l'ironie. Reste une solution, redécouvrir le répertoire du no du théâtre japonais. Masque, pas de contact direct entre interprètes et aucun instrument avant. Tu repenses aux pièces de Samuel Beckett, où il exige des comédiens qu'ils jouent sur des lignes séparées. Tu t'amuses à imaginer mettre un mètre de distance entre tes phrases. Tu te lances dans un premier commandement. Tu n'écriras point. Il lui prend la main. Elle se jette sur lui. Il l'effleure de ses doigts, elle se jette dans ses bras. Mais tu écriras, seul, dans la nuit, il prend une bouteille, et sombre, dans la mélancolie, la plus noire, elle, le regarde, il ne la voit pas, elle, se souvient du temps où il pouvait s'approcher. Chacun dans son monde, il danse. Devant vos yeux masqués, il danse. Tu continues de réfléchir. Tu imagines un monologue de trompettistes séparé de l'orchestre, enfermé sous un ventilateur à haute afflux laminaire, qui va plaquer au sol les aérosols sortant de son instrument avant. Tu imagines qu'il tombe amoureux d'une spectatrice masquée, mais qu'il ne se croit jamais car les trajectoires sont séparées par des lignes au sol de la salle de concert. En cas de rapprochement impératif lié à des scènes de colère ou d'amour, les comédiens devraient se soumettre à des prises de température et à des tests sérologiques. Tu n'as plus d'idée pour le monde de demain que tu trouves très moche. Tu te demandes si Bricker a lu Mein Kampf avant d'écrire son rapport. Tu touches le point Godwin très vite. Mais il faut dire que ça fait 2 mois que tu n'as pas pu t'allonger sur une pelouse. Et tu commences à les trouver cinglés, à vouloir que le monde de demain soit un hommage à H&M. Tu te dis, putain, mais ils n'ont rien compris. Tu écoutes ta sœur de 20 ans qui a leur âge. Elle ne pourra pas partir en Grèce pour son stage. Sa vie, elle est commencée. Et voilà, ses ailes sont coupées. Tu penses aux jeunes de ton quartier qui ne partaient pas en vacances hier, qui ne partiront pas demain. Tu penses à ces ados qui t'ont confié leurs rêves, leurs désirs insolents. À celui qui veut devenir champion de football. À celle qui veut danser. À celles et ceux qui s'accordent à vouloir sauver la planète. Tu écoutes ton ami qui crie « Je ne veux pas que mon fils aille dans une école avec un masque et séparé de ses copains par un plexiglas. » Tu refuses de céder à sa panique. Tu n'as jamais été pessimiste. Puis tu regardes, effaré, ces images qui circulent. Des hommes et des femmes dans des bulles sur la plage. On nous l'avait bien dit que l'effondrement arrivait. Et bien là, c'est une petite répétition générale, un petit avertissement, tu te dis. Et puis ce matin, tu entends Pierre Lemaître qui dit tout tranquillement à la radio « Je pense aux jeunes à qui nous léguons un monde en perdition. Nous sommes devenus si lettrés, si intelligents, si policés, que nous sommes capables de dire cette phrase avec une simplicité que je trouve effarante. » Je pense aux jeunes à qui nous léguons un monde en perdition.
Le monde de demain. Une fiction écrite par Jali Barcilon. Réalisée par Sophie de Picon. Générique à retrouver sur franceculture.fr.
Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau.
Nous sommes ici au kilomètre 259 de notre périple le long de la Seine. 259 kilomètres depuis Source-Seine, qui est l'endroit où la Seine prend sa source. Et nous sommes ici devant le cloître de Port-Royal, sur le boulevard de Port-Royal à Paris. Nous sommes à l'extrémité du cloître, dans cette atmosphère très particulière où se combine l'héritage religieux et politique du jansénisme. C'est une doctrine extrêmement sévère qui combinait... Une doctrine catholique extrêmement sévère qui combinait le souci des pauvres, la sortie du monde, une vie extrêmement ascétique et qui la combinait avec une idée extrêmement pessimiste de la nature humaine fondée sur la prédestination absolue, le petit nombre des élus, le fait que la massa damnata, la masse des damnés, était beaucoup plus importante que la masse des sauvés. Et cette hérésie, pour cette raison, qui ressemblait à certaines hérésies protestantes, a été condamnée par le siège apostolique et donc a été persécutée par le roi de France, qui était, lui, plutôt conseillé par des jésuites, qui ont été les grands adversaires du jansénisme. Et on sait que c'est contre eux que Pascal a écrit Les Provinciales. Et donc ici, dans ce lieu, à Port-Royal de la ville, on retrouve cette atmosphère du jansénisme et on retrouve aussi, tout autour de cette atmosphère du jansénisme, l'atmosphère de l'assistance publique de Paris avec ses bâtiments au sein desquels l'ancien cloître est désormais enchâssé. Et c'est à l'intérieur de cet endroit que je voudrais évoquer avec vous deux problématiques qui sont la conversion d'une part et d'autre part, de manière peut-être un peu plus surprenante, s'agissant de Port-Royal, le féminisme. La conversion, je voulais dire que je ne la vois pas comme... un mécanisme spécialement religieux, c'est plutôt, elle peut être religieuse bien sûr, mais c'est plutôt le mouvement par lequel on veut se retrouver et échapper à ce que Proust appelait la connaissance conventionnelle qui nous empêche d'accéder à la vie véritable. Au fond, cette conversion peut être conversion à une foi, elle peut être conversion à la littérature, elle peut être conversion à l'art, et elle peut être aussi une sorte de conversion négative comme celle de Rimbaud, Cessant d'écrire, ou Thomas Edward Lawrence cherchant dans une destinée de soldat de seconde classe, une sorte de réparation des fautes qu'il pensait avoir commises dans sa quête du royaume arabe au cours de la Première Guerre mondiale. Et à propos de conversion, je vous parlerai d'un esprit qui était l'esprit le plus brillant de ce temps, un esprit du XVIIe, qui est à peu près oublié aujourd'hui, et qui s'appelle Antoine Lemaître de Sacy. Il appartenait à une grande famille parlementaire et janséniste, et c'était un homme absolument exceptionnel. Vous pouvez imaginer quelque chose qui serait à la fois Dupont-Moretti, Giscard, jeune ministre et Bill Gates. Une des grandes gloires de son temps. Il commence à plaider à 20 ans en 1629 et il déclasse immédiatement au Parlement de Paris tous ses concurrents. On peut encore trouver ses plaidoiries et l'une des plus belles. Et pour une femme qu'on veut forcer à revenir à tort au domicile conjugal, Richelieu veut en faire un ministre, il se refuse et il est clair qu'il commence à s'ennuyer aux audiences et que même il s'y endort. Racine écrit cette phrase magnifique « Le vent de Dieu ne fit que passer et en lui tous les cèdres du Liban tombèrent ». En 1637, il quitte définitivement le palais aux vacances judiciaires et il ne reviendra pas. Personne ne sait où il se trouve. Et c'est l'abbé de Saint-Cyran, l'un des maîtres du jansénisme, qui lui a trouvé une petite chambre exactement ici, plaquée de sapins, parce que l'atmosphère était humide, dans le cloître de Port-Royal où nous sommes. Un certain nombre de gens commencent à penser qu'il veut rentrer dans les ordres, en fait, pour poursuivre une destinée ambitieuse, alors qu'il aurait pu devenir ministre, pour devenir évêque, et il écrit alors une lettre à Séguier, dans laquelle il a cette phrase magnifique « Je ne veux pas changer d'ambition, je veux n'en plus avoir du tout ». On le presse de devenir chartreux, il y a la chartreuse qui est juste à côté, la chartreuse du Luxembourg, il s'y refuse, il ne veut pas devenir prêtre, et il devient solitaire à Port-Royal des Champs. Il est à part, il ne parle presque plus à personne, il écrit des livres absolument magnifiques, le chancelier Séguier qui le hait lui refuse le privilège d'impression, il s'en moque. Il conservait, écrit Racine, je ne sais quoi d'irrégulier, qui était sa marque, et je ne connais pas de plus beau compliment. Il a renoncé absolument à tout, et pourtant un jour les religieuses lui demandent de plaider. Il sort du cloître de Port-Royal des Champs et c'est l'éblouissement de son ancien talent qui revient, une plaidoirie magnifique sur un objet tout à fait mineur, puis il retourne au silence. Il avait dit à Racine, le métier d'avocat est le plus beau métier du monde lorsqu'on n'est pas solitaire. La persécution des jansénistes par le pouvoir royal n'a jamais cessé depuis 1650 et c'est le 21 août 1664 que l'archevêque de Paris, qui s'appelait Péréfix, se rend au cloître et sermonne les religieuses de Port-Royal en les sommant d'obéir au roi, au pape et à l'Église. Il leur recommande de signer ce qu'on appelle le formulaire par lequel elles abjurent l'hérésie. Et au fond, le monde épiscopal de l'époque, comme le monde épiscopal d'aujourd'hui, est évidemment un monde d'hommes. Et ce qui se passe est tout à fait surprenant, c'est que ces religieuses, et notamment la mère Angélique, qui est la principale d'entre elles, vont opposer une détermination que on n'ose presque pas qualifier de masculine, en tout cas une détermination féminine face à l'oppression de ce pouvoir qu'on dirait aujourd'hui patriarcal, qui est absolument radical et qui paradoxalement arrive à faire passer les hommes pour ce qu'on appelait à l'époque des femmelettes. Et c'est exactement ce qui se passe puisque, alors que les religieuses restent fortes et dignes, Péréfix trépigne, pleure et pour finir, dans un saignement qui rappelle le saignement menstruel, dit Racine, saigne face à ces religieuses, de telle sorte qu'on est obligé d'emporter trois serviettes mouillées de son sang. Quand toute la force est d'un côté, écrit le grand Nicole, et qu'il n'y a que la raison et l'innocence de l'autre, il semble qu'il n'y ait rien à attendre de la justice des hommes. La fin de Port-Royal, c'est celle de Racine, c'est celle de Pascal, c'est celle des religieuses. Ils seront persécutés de la manière la plus radicale, puisque en 1711, le roi fera ouvrir, violer les sépultures, disperser les ossements, et Sainte-Beuve y voyait la préfiguration du viol des ossements des rois à Saint-Denis en 1793, et d'autres auteurs plus tardifs y ont vu la préfiguration des horreurs totalitaires du XXe siècle. Et puisque nous avons souvent parlé en montant la scène du surréalisme, je voudrais raconter un épisode étonnant qui est assez peu connu, c'est que André Breton plus tard se réclamera des jansénistes persécutés. En 1941, pendant la guerre, il fait un poème objet qui s'appelle « Portrait de l'acteur André Breton dans son rôle mémorable de l'an de grâce 1713 ». Et on y lit simplement les mots « Je te vois, pape Clément XI, vieux chien », puis ceci qui nous frappe à l'endroit où nous sommes, Port-Royal détruite, mais invulnérable.
Et on retrouve la grande table d'été demain. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillon, Luc Vauvillier, Jeanne Copé, Judith Kravitch, Mathieu Bellini, à la réalisation Lise Combe, à la technique Audrey Guélil. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.